R22 tout le monde présente
relecture.
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 Relecture en réécoute. Antenne Chiasma.
Et alors, je fais pas ça d'habitude, mais je vais vous montrer un peu des ratés vidéo ou des choses que j'ai pas gardées. Voilà, je suis là, et en fait c'est la première fois dans cette performance sur la Nouvelle-Calédonie que je me suis rendu compte qu'une des questions d'aura lieu, c'était la question aussi du lieu où moi j'étais finalement et de ce que je faisais là. Et donc c'était même en répétant ici, bon, il y a le problème de passer dans la vidéo qui me gênait, la sensation d'être à la fois là et sur l'écran, la sensation qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait derrière la caméra et que j'arrivais pas bien à raconter. Et du coup, j'avais une espèce de sensation d'être à la fois dans plusieurs endroits et pas complètement à l'endroit où j'aurais dû. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me raccroche à quelque chose, cette espèce de sensation légèrement de malaise. Et je me suis dit, je vais appeler cette performance « Intrication quantique des oursins plats ». Et une fois que j'ai eu trouvé ce titre, ça m'a un peu rassuré. Je me suis dit, voilà, c'est l'intrication quantique des oursins plats. Et ça me rassurait parce que la question de l'intrication quantique, ça a à voir avec la physique et ça a à voir avec le principe de localité. Et du coup, finalement, c'était la question de est-ce que je suis là ou est-ce que je ne suis pas là ? Quel est mon état de présence ? Et je me suis dit, à partir de là, je peux commencer peut-être... même bizarre à rentrer dans la peau d'un personnage, et c'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, tout de suite, je me suis dit, voilà, et je vais parler de moustiques, parce que les moustiques savent rentrer dans la peau du personnage, et si le moustique rentre dans la peau du personnage, il lui donne des maladies, le moustique rentre dans la peau du personnage avec la salive des autres gens, le moustique rentre dans la peau du personnage et le contamine. Ça, ouais, ça va pas. Alors, du coup, en fait, peut-être faut que je reparte sur ce que c'est aura lieu pour expliquer un peu mieux. En fait, aura lieu, le principe, c'est donc de décrire des lieux dans le monde. Il y a 5 lieux dans le monde. Et par exemple, là, j'étais en Nouvelle-Calédonie et c'est un lieu qui s'appelle la baie de Magenta, qui est très très belle, et je la traversais, on peut la traverser à pied, donc il y a une très grande étendue d'eau, et on peut marcher à pied dans cette très grande étendue d'eau, et donc il y a des lieux comme ça dans le monde qui m'ont fait un tilt, et je me suis dit, on peut faire quelque chose. Voilà, donc c'est le premier principe. Le deuxième principe d'aura lieu, c'est à chaque fois d'en parler à l'oral. Et après, là, il y a eu le titre qui est arrivé, aura lieu. Et puis après, il y a une troisième chose, c'est d'avoir une vidéo du lieu, si possible, derrière moi. Il y a un quatrième principe, c'est d'être toujours un peu en train de chercher en même temps que je fais la forme. Je présente quelque chose, mais ça peut encore bouger. Et puis, il y a un cinquième principe assez important dans tous les aura lieu avant celui-là, qui est d'avoir des cartes pour un peu structurer la performance ou la conférence. Et du coup, j'ai travaillé avec deux graphistes qui ont... on a fait des cartes qui sont un peu les chapitres des aura lieu et qui me permettent, comme ça, de structurer la pensée, de faire surgir de manière aléatoire ou non des chapitres. Et en fait, les deux graphistes avec qui j'ai travaillé, juste avant que je travaille sur aura lieu Magenta, ont arrêté le graphisme. C'est pas une blague. Du coup, j'ai pas de cartes. Et du coup, là, je me retrouvais devant une performance où je cherchais un peu ma voix et l'architecture. Et en fait, on dit souvent en art qu'il faut appuyer l'endroit où ça fait mal. Donc finalement, il faut aller à fond dans l'endroit où on n'est pas du tout à l'aise. Et du coup, je me suis dit, je vais chercher un truc où appuyer sur le fait que je n'ai pas d'architecture, sur le fait que je n'ai pas mes cartes et que... Et alors, j'ai regardé un peu la vidéo, j'ai réfléchi. Et en fait, ici, sur la droite de la vidéo, on ne voit pas, mais 200 mètres plus loin, il y a le centre culturel Djibaou, qui est un centre culturel qui, moi, m'avait marqué quand j'étais enfant. C'est un centre culturel qui a été construit dans les années 90, et vous n'êtes pas forcé d'en avoir une idée, mais moi, il m'avait beaucoup marqué. Je me souviens que j'avais vu des photos, et que c'est des grandes formes d'œufs comme ça qui surgissent de la forêt. Et c'était un souvenir que j'avais. Et quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, et quand on a fait ce film, et puis le lendemain on a été, j'ai visité le centre culturel Djibaou. Et d'un coup, j'étais très heureux de voir ce lieu. Et en fait, le centre culturel Djibaou, il est lié évidemment à la notion de... Alors ça fera sens peut-être plus tard pourquoi c'est lié au fait de ne pas avoir les fiches. Mais pour l'instant, c'est peut-être important de rappeler que le centre culturel Djibaou, à l'origine, a un lien avec la grotte d'Ouvéa. Et pour parler de la grotte d'Ouvéa, j'aurais pu avoir une carte grotte d'Ouvéa. J'aurais fait un... En fait, je vais repartir d'ailleurs. On repart d'un autre moment. On est le 11 mars 2011. Je vais partir le 12 pour la Nouvelle-Calédonie. Et le 11 mars 2011, je suis déjà à Paris. Moi, j'habite en Bretagne, je suis à Paris. Et je téléphone à mon ami de l'époque, avec qui on vit ensemble depuis 8 ans. C'est un moment où ça ne va pas très bien. Et je téléphone à mon ami et je lui dis... ça ne se passe pas bien et on décide de se séparer. Et en fait, ça fait 8 ans qu'on vit ensemble, mais là, on sait que c'est la bonne foi, que c'est une vraie séparation. Je décolle le lendemain, je dis on réglera les détails dans 3 semaines. C'est fini entre nous. Je décollais le 12, et en fait, j'ai découvert le 12, mais ça avait lieu le 11. En fait, le 11, il y avait aussi, en même temps, un énorme tsunami qui sur la côte de Tohoku, au Japon, qui a recouvert la centrale de Fukushima Daiichi et qui a provoqué la catastrophe de Fukushima. Et du coup, quand je partais le 12, j'avais ces... Je ne sais pas si les deux sont liés, mais j'avais ces deux choses dans la tête qui complètement me submergeaient. Et j'étais dans cet état un peu fébrile. Et en plus, il se trouve que pour aller en Nouvelle-Calédonie, l'avion passait par Tokyo. Donc on arrive à Tokyo, j'étais un peu bouleversé. Et là, il y avait cette sensation, cette question de l'invisible qui était très forte, puisque en réalité, le nucléaire, il n'y avait rien à voir. Enfin, à Tokyo, dans l'aéroport, on n'était pas contaminé. Mais simplement, évidemment, j'avais ça en tête. J'avais la séparation en tête. Et j'arrivais. Et en plus, les Japonais, dès qu'ils ont un petit rhume, mettent des masques blancs en tissu. Donc, il y a un côté un peu maladif, un peu inquiétant dans l'aéroport. Donc, l'étrangeté totale, tout est en caractère étranger. On reprend l'avion. J'arrive en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, en Nouvelle-Calédonie, c'est le choc inverse, c'est-à-dire que j'arrive avec tout ça, chargé de tout ça, et tout est extrêmement normal. C'est-à-dire que j'arrive en Nouvelle-Calédonie et je travaille pour un théâtre, et les gens qui m'accueillent parlent français avec un accent de métropole. M'accueille, je reconnais tout, les voitures sont normales, et surtout, sur la route, la signalisation est ultra française. C'est-à-dire que rien ne me signifie que je suis aux antipodes. Tout est normal. Et c'était une sensation extrêmement surprenante d'être à ce point dans un endroit normal. Je me disais, c'était comme, notamment la signalisation, les routes, je me disais, quand je vais en Allemagne, c'est plus différent que quand j'arrive à l'autre bout du monde, finalement. J'étais là, en Nouvelle-Calédonie, et ça ressemblait à des choses que je connaissais. Et je me dis, il y a un problème d'identité graphique, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui ne raconte pas réellement où je suis. C'est trop la France, ça ne raconte pas assez qu'on n'est pas complètement en France. Et finalement, cette sensation que j'ai ressentie, sans doute qu'elle rejoint, quelque part, la notion de... Elle rejoint sans doute la notion, cette histoire de grotte d'Ouvéa, en fait. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la colonisation en entier. On va simplement remonter aux années 80, premier septennat de Mitterrand. Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il va y avoir il y a des grosses disputes pour savoir si la Nouvelle-Calédonie va devenir indépendante. Il y a une discussion sur qui a le droit de voter, en fait, aux élections. C'est-à-dire que les Kanaks soupçonnent le gouvernement français de métropole de vouloir blanchir l'île et de vouloir mettre beaucoup de blanc sur l'île pour remplacer les Kanaks. Et il est décidé que pour le référendum auront le droit de voter les gens qui sont depuis plus de 3 ans en Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose qui ne convient pas du tout aux Kanaks. Bon, il y a d'autres questions plus complexes sur la régionalisation, qui sont des notions là-bas, mais globalement, c'est quand même le référendum qui pose problème. Le référendum a lieu, les Kanaks n'y vont pas, il y a une participation très faible, mais 95% des gens qui participent sont pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Les Kanaks prennent ça extrêmement mal. Il y a en plus cette histoire de régionalisation. On arrive en 88, on est juste avant les deux tours de la deuxième de l'élection présidentielle. Et je le raconte, il y en a peut-être qui savent déjà tout ça. Un groupe de Kanaks décide de prendre en otage un groupe de militaires sur l'île d'Ouvéa. Alors il faut savoir qu'en réalité, ils avaient aussi prévu des prises d'otages sur les deux autres îles Loyauté, à Marée et Lifou. Mais ils prennent en otage que à Ouvéa, parce qu'il y a des coutumes, il y a ce qu'on appelle la coutume, qui est un ensemble de règles très précises en Nouvelle-Calédonie, qui les ont empêchés sur les autres îles d'agir ces jours-là. Donc c'est pour raconter aussi une certaine complexité de la mentalité là-bas, qui fait que même une prise d'otage planifiée, si la coutume ne correspond pas, n'a pas lieu. Elle a lieu à Ouvéa. Il y a des morts, pas mal de morts, et finalement... on libère, enfin, il y a une espèce de tension énorme, et c'est entre les deux tours. Il y a eu des morts du côté des militaires. Les Kanaks sont retranchés dans une grotte dont on ne sait pas exactement où elle est. Et là, c'est très important de se rendre compte qu'on est en 88 et que les communications sont uniquement téléphoniques. Et du coup, vous avez un gouvernement français qui est en train de s'occuper des élections, qui est en plein milieu d'autre chose, qui communique avec des militaires et différents services de militaires qui sont en train de chercher une grotte dans la jungle, sur une île, qui n'est même pas sur l'île principale de la Nouvelle-Calédonie, mais qui est ailleurs. Le résultat, c'est qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui exactement quelle est la chaîne d'ordre qui a eu lieu. Le résultat, c'est qu'avant le deuxième tour, les militaires interviennent. Et ça se passe très mal. Il y a pas mal de Kanaks qui sont tués et on libère les militaires. Mitterrand est réélu. C'est une catastrophe. Enfin, d'un point de vue relation avec les Kanaks, évidemment, c'est catastrophique. Et c'est Rocard qui va être chargé de s'occuper de ça. Et Michel Rocard va proposer les accords d'Ouvéa. Les accords d'Ouvéa, ça va avoir deux grands principes. Ça va être de refaire un gros référendum pour 2018 au plus tard. Autrement dit, ça approche beaucoup. Et l'autre gros événement, ça va être de construire le centre culturel Djibaou. Alors, par exemple, il faut savoir que même Djibaou, on nomme pas un centre culturel comme nous en disant « Tiens, on pourrait donner un nom célèbre. » Il y a une coutume très détaillée pour que le centre culturel prenne le nom de quelqu'un et la famille cède le nom, des gens cèdent un territoire, on décide d'un emplacement, etc. Tout ça est extrêmement codifié et se fait selon des coutumes. Il y a un appel à projet. L'appel à projet est remporté par Renzo Piano, qui est l'architecte de Beaubourg. Et Renzo Piano, il va essayer justement de ne pas reproduire quelque part ce que j'ai vécu en arrivant, c'est-à-dire cette violence graphique qui serait d'être complètement en opposition avec la culture kanak. Il va essayer quand même de prendre en compte ce qui a lieu sur le lieu, sur place. Et il va notamment se rendre compte qu'en architecture, les cases, enfin on construit des cases et on ne construit pas de grands buildings parce qu'il y a des tempêtes très fortes qui détruisent tout. Donc en fait, Renzo Piano se rend compte que ce qui compte en architecture, dans la tradition kanak, ce n'est pas ce qu'on construit, c'est l'emplacement où on le construit, et c'est un ensemble d'emplacements. Et finalement, l'important n'est pas tant le bâtiment que des positions de certaines cases par rapport à d'autres. Voilà ce que se dit Renzo Piano. Et évidemment, moi, ça va totalement avec ma question de la performance d'aujourd'hui, qui était de ne plus avoir de cartes, mais finalement... d'avoir certaines cases où on peut construire des choses et qui, d'une fois à l'autre, sont mobiles. Alors, je vous cite une petite phrase de Renzo Piano. Je l'ai notée parce que je ne l'ai pas apprise par cœur. J'ai compris que l'un des caractères fondamentaux de l'architecture kanak est le chantier. Le faire est aussi important que le fini. J'ai pensé, dès lors, développer l'idée de chantier permanent ou plutôt d'un lieu ayant l'apparence d'un chantier non fini. Alors en réalité, bien sûr, il y a quand même des choses en dur hein, dans la construction de Renzo Piano, mais quand on la visite, il y a certains endroits où c'est vraiment des huttes traditionnelles qui sont régulièrement détruites, reconstruites, remplacées. J'arrive donc à cette notion de chantier qui était et de case et d'emplacement qui était là pour me rassurer dans cette forme un peu déstabilisée. Et finalement, je me dis, ça va toujours pas bien. Je me dis, je suis pas encore tout à fait au point. Il y a trop de choses fragiles. En fait, une des choses qui m'embête beaucoup, c'est que la vidéo que j'ai faite est de très mauvaise qualité. En fait, j'étais là-bas pour faire un spectacle et j'étais avec Wake Fogang, qu'on voit dans la vidéo, qui est un acteur camerounais, et il devait jouer un personnage kanak, ce qui n'était pas simple non plus, et il devait jouer un personnage qui, en fait, est gardien devant le théâtre, et ce personnage est très violent, parce que, dans son enfance, il se faisait battre. Et sa mère, quand il se faisait battre, l'envoyait sur une des îles Loyauté, l'île de Marée, et l'envoyait en avion. Alors en fait, l'endroit où est tourné le film, c'est l'air Magenta, et c'est un petit aéroport local. Ce n'est pas l'aéroport par lequel moi je suis arrivé, mais c'est l'aéroport par où partent les avions qui vont à Ouvéa, à Marée et à Lifou. Et du coup, c'était très touchant pour moi, dans la pièce, que ce personnage regarde les avions partir. Et puis finalement, je ne l'ai pas gardé. J'ai écrasé cette vidéo dans une forme de 30-35 secondes, tout ce que vous voyez là. Et puis quand j'ai voulu la ressortir, je me suis rendu compte que c'était difficile, parce que j'avais tout accéléré, sauf les décollages d'avions. Et du coup, ça donnait une vidéo qui n'avait plus aucune vitesse juste. Donc en fait, la mer va tout le temps un peu vite. Les voitures sont saccadées, mais ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est que le pied de la caméra avec lequel je filmais s'enfonçait dans le sable. C'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de s'enfoncer dans le sable, et du coup, moi, je le tenais et j'essayais de rattraper, mais il se réenfonçait dans le sable. Et du coup, j'avais une sensation permanente de déstabilisation. Et on voit par moments qu'il y a des à-coups. Donc ça fait une vidéo qui est à peu près inutilisable en conditions professionnelles et en plus qui a des mouvements. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui m'intéressait pas mal dans cette idée à un moment donné que quelque chose puisse être déstabilisé en tombant dans le sable, en tombant dans l'eau. Et je me disais, plutôt que le chantier, qui est une notion un peu bateau... En art, on est tout le temps en chantier, on présente un chantier. Je me disais, ça pourrait être très beau de présenter des choses au bord de la déstabilisation, qui seraient presque en train de tomber. Et en fait, je crois que je ne suis pas très très fort pour ça. J'ai vu Fantasio, il y a deux jours ici, tenter des déstabilisations, et c'est très très intéressant de voir comment certaines personnes jouent à se déstabiliser. Moi, personnellement, j'avais qu'une idée, c'était de rattraper le pied et de faire qu'il soit... le plus fixe possible. Alors, je veux bien qu'on éteigne les lumières. Je suis là. J'essaye vraiment de stabiliser mon pied qui s'enfonce dans le sable. J'ai les mains sur la caméra. Et en fait, je vois sous mon pied droit, enfin juste au bord de mon pied droit, un oursin plat. Et là, je me dis, tiens... C'est marrant, alors j'en ai ramassé dans les jours précédents, mais j'en ai pas vu autant dans l'eau. Et puis là, j'ai une révélation, et je vis ce moment d'intrication quantique des oursins plats. Je suis complètement en intrication quantique des oursins plats. Je pense à cet oursin plat sous mon pied à Nouméa, et il me rappelle très précisément un oursin plat que j'ai chez moi, que j'ai ramassé en Bretagne il y a 10 ans, et qui est un fossile de 12 millions d'années. Alors, je vais vous donner des petites cartes. Je les ai faites moi-même, hein, parce que je n'ai pas de graphiste sur cette performance. Vous pouvez les faire tourner. C'est une chacun, ou deux, comme vous voulez. C'est la même. Il n'y en a qu'une. Vous allez voir les oursins plats. Et alors, donc je suis là. Alors, il faut peut-être expliquer rapidement la physique quantique. Alors, je ne vais pas faire des formules mathématiques. Simplement, vous connaissez tous cette idée scientifique qui est que on va essayer de chercher le plus petite chose jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire qu'on se dit, si je découpe cette chose, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et quand j'aurai obtenu ce qu'il y a à l'intérieur, si je la découpe, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? L'idée d'atome vient de là. L'atome, ça serait ce qu'on ne peut plus découper. La physique quantique, en fait, dépasse l'atome. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il y a dans un atome. Il y a plus petit, il y a encore des trucs dans l'atome, en fait. Donc, ce n'est pas la plus petite unité. Et en fait, quand on arrive à la plus petite unité, on n'arrive pas à une particule, on n'arrive pas à quelque chose qui soit un grain. On arrive à des particules physiques qui ne sont pas représentables dans notre univers. C'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose... Vous avez sans doute souvent entendu, on ne peut pas décrire, si on dit où elle est, on n'aura pas sa vitesse, si on décrit sa vitesse, on n'aura pas où elle est. En fait, ça, c'est une manière de dire que cet objet qui est le plus petit, le plus petit, le plus petit, ne ressemble pas aux objets auxquels nous sommes habitués. C'est-à-dire que la physique quantique déstabilise, pour le coup, complètement le rapport qu'on avait d'habitude aux choses, et elle nous dit, quand vous découpez sans cesse, vous aboutissez à quelque chose qui est autre chose que ce qu'on attendait, qui n'est pas juste une division, mais qui est d'une autre nature. C'est des champs gravitationnels, c'est des champs de Higgs, c'est tout un autre monde. Et il y a quelque chose d'encore plus particulier dans la physique quantique, je ne vous fais pas tout le tableau, mais il y a des intrications quantiques. C'est-à-dire qu'il y a certaines de ces particules qui sont capables, à distance, d'avoir des intrications. Ce qui est absolument impossible dans notre monde physique à nous, a priori. C'est-à-dire que si je suis loin de quelqu'un et que rien ne nous relie, s'il m'arrive un truc, il ne lui arrivera pas la même chose. Dans les particules intriquées, sans que rien communique de l'une à l'autre, si je décris ce qui arrive à une des deux particules, je décris précisément ce qui est en train d'arriver à l'autre particule. Si je décris précisément l'oursin plat que j'ai sous les pieds à Nouméa, je suis en train de décrire précisément un oursin plat dans une forêt bretonne, vieux de 12 millions d'années. Et alors je suis comme ça, dans une espèce de réalité un peu nouvelle, je tiens toujours le pied de la caméra, je suis en train de m'intriquer doucement avec la forêt bretonne, et en fait je me dis cet oursin breton fossile est dans une forêt, et je sens la forêt qui m'entoure à Nouméa. C'est-à-dire que très progressivement, je suis entouré d'une forêt, ce qui n'est pas du tout anormal. En fait, à Nouméa, la forêt va sur l'eau, ça s'appelle la mangrove, et je suis progressivement comme ça plongé dans un monde qui est à la fois la forêt bretonne, la forêt à Nouméa, mais dans l'eau. Et en fait, dans l'eau, dans la forêt à Nouméa, sous l'eau, il y a des serpents. Donc dans la forêt chez nous, il peut y avoir des serpents qui circulent. Là, dans l'eau, il y a des serpents. Et je pense, ça s'appelle des trichorhéiés, qui sont très très dangereux. Enfin, ils ont une piqûre extrêmement mortelle, mais une toute toute petite bouche, donc en fait, ils peuvent pas nous piquer. Donc ils sont là, et je suis comme ça en train de vivre cette intrication quantique des espaces. Je tiens le pied de ma caméra, ça continue à tanguer un peu, le pied s'enfonce par moment, je continue de le relever, et à ce moment-là, un moustique se pose sur mon doigt. Et alors, je le regarde, je connais bien les moustiques, et le but est de ne pas bouger. Donc, progressivement, il y aura plusieurs moustiques, mais bon, je passe là-dessus, il y avait vraiment énormément de moustiques. En fait, le jour tombe, et c'est un moment où les moustiques sortent, et de nombreux moustiques commencent à m'entourer, et je regarde Wake que je suis en train de filmer, et je me dis, évidemment, Wake est aussi en train de se faire piquer. Et là me vient une idée un peu tordue, je me dis, je peux attraper le palu. Puisque Wake Foguing a le palu, en fait Wake est camerounais. Donc ça c'est aussi un principe de localité très très nouveau, c'est qu'aujourd'hui pour nous c'est les Africains ou les Sud-Américains qui ont le palu, mais pas nous. En fait jusqu'aux années 30 il y avait du palu un peu partout, et dans l'histoire de l'humanité le paludisme est extrêmement répandu. Christophe Colomb avait le palu, Toutankhamon avait le palu. Wake Foguing a le palu, je me dis, si le moustique le pique et me pique, je peux tomber malade. Et en fait, je me rends compte que c'est complètement idiot, parce que le moustique qui me pique, c'est Aedes, alors que le moustique qui donne le paludisme, c'est Anophel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est anophèle qui peut donner le paludisme. Anophèle en grec, ça veut dire l'inutile. Et aédès, c'est le déplaisant. Donc finalement, j'ai confondu l'inutile et le déplaisant, ce qui ne me ressemble pas du tout, parce que je suis quand même assez calé en moustique. Et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas du tout pour que j'ai confondu les deux. Aédès ne peut pas me donner le paludisme, il peut me donner, à la limite, la dengue ou le chikungunya, mais pas le palu. Je suis un peu troublé, je me dis, j'ai dû manger quelque chose qui n'est pas bien passé. Et là, je pense à la ciguatera. Je suis toujours en train de tenir. Alors, il y a de plus en plus de moustiques. J'en ai eu jusqu'à 7 sur la même main. Je ne veux pas bouger parce que je veux finir ce plan. Et je pense, je continue à tanguer. Et en plus, je me dis, je ne reconnais plus les moustiques. Je me dis, j'ai dû manger du poisson qui avait la gratte. Alors, en fait, la ciguatera, c'est une maladie de Nouvelle-Calédonie. Quand des coraux meurent, une toxine se dégage avec certaines algues. Et les poissons mangent cette toxine. Alors, les poissons qui mangent les algues ne sont pas malades, mais il y a un système de bioaccumulation qui fait que des carnivores mangent les poissons herbivores, ça s'accumule. Et quand l'homme mange un carnivore, un poisson qui a mangé les autres, il peut d'un coup, c'est très violent, attraper la ciguatera ou la gratte, qui est une maladie dont le principal symptôme est que ça nous démange. Mais les autres symptômes sont beaucoup plus étranges, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui confondent le chaud et le froid. Et du coup, on se retrouve face à une inversion complète des sensations. Et dans le journal de James Cook raconte qu'un de ses marins qui avait attrapé la ciguatera confondait le léger et le lourd. Alors, le fait de penser à tout ça fait que là, je suis vraiment en train de tanguer. Et à ce moment où le pied s'enfonce dans le sable et où je sens les choses comme ça vriller un peu, je ne suis pas déstabilisé, mais je suis dans une réalité un peu double. Je ne sais plus bien. J'ai cette sensation très étrange que les polarités s'inversent et que carrément les pôles tournent les uns autour des autres et que la planète fait des espèces de mouvements. Et alors ça, je me suis renseigné après coup, je ne savais pas, mais la planète fait ça. C'est-à-dire qu'en 200 000 ans, elle a 300 fois changé, les pôles ont changé de place. Donc en fait, j'avais une sensation qui était peut-être purement instinctive, mais peut-être que la planète faisait des choses comme ça. Il faut savoir que quand le pôle nord, d'un coup, se déplace et arrive au pôle sud, on appelle ça une inversion. Mais parfois, le pôle nord se déplace et revient à sa place. Et dans ce cas-là, on appelle ça une excursion. Et finalement, je me disais, je cherchais la notion de chantier, de déstabilisation, mais peut-être que simplement ce que j'avais fait, c'était une excursion. Merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'on va retourner boire un petit coup dehors, le temps d'installer la suite pour Olivier Marbeuf qui va enchaîner derrière. Voilà. Il reste donc un aura lieu demain à 17h. Vous avez tout le programme, bien sûr, sur le guide de relecture. Et puis voilà, on va boire un coup.